Aujourd'hui, je vais vous partir une petite étude pour nous donner la pensée biblique sur un sujet qui nous touche tous de proche. Pour le moment, c'est de loin, mais ça va nous toucher de proche, nous aussi, qui est important d'en savoir la portée de ces choses-là pour être capable de l'expliquer à d'autres personnes qui sont autour de nous. C'est un sujet qu'on parle pas souvent, mais il faut en parler. Puis il y a des choses qu'on a déjà dit dans d'autres messages qui ont rapport à cela, mais ce que je veux toucher dans la petite étude, c'est la mort, la résurrection, puis après la mort, pour voir qu'est-ce qui arrive avec tout cela, pourquoi que c'est là, puis qu'est-ce qui va arriver après. Parce que si on ne le sait pas, on n'a pas, soit qu'on peut être enthousiaste, puis on a hâte que ça nous arrive, puis il y en a d'autres qui ont peur parce que c'est inconnu, puis on n'ose pas en parler. Mais il faut en parler, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu nous parle là-dessus. Avez-vous peur de la mort? La mort physique. Là, c'est sûr, là, je m'adresse à des chrétiens, puis ils savent déjà où ils s'en vont, puis ils ont toute l'assurance qu'ils s'en vont sur le mont mort, fait que c'est pas une peur. Mais il y a du monde qui ont peur. Puis pourquoi qu'ils ont peur? C'est parce que c'est l'inconnu, ils savent pas ce qui va arriver, puis ils ont pas d'assurance qu'il va se produire telle et telle chose. Les gens sont dans des religions, puis ils se font dire toutes sortes d'idées. Puis il y en a qui, même à cause de leur religion, qui n'ont pas peur de la mort, sont prêts à se faire exploser pour pouvoir mourir dans le but peut-être d'avoir de l'argent qui soit donné à leur famille ou qui pensent qu'ils vont avoir 20 vierges, 30 vierges qui vont leur arriver là au bord. En tout cas, la mort, est-ce qu'on a peur de la mort? Êtes-vous prêt à mourir? Parce que c'est encore une... Être prête dans le sens d'être prête qu'on le sait que tout est fait pour que je rentre sur le bon bord. Être prête à mourir, c'est je le sais où je m'en vais, puis je le sais que ma porte va être ouverte. Pour les bonnes raisons, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui se véhiculent dans la vie, puis il y a beaucoup de gens qui ont des faux espoirs pour ce qui va se passer après. Puis il est important de lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour être sûr que ce que nous croyons, c'est biblique. Savez-vous ce qui vous attend après votre mort? C'est des bons sujets qu'on va regarder. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant d'arriver dans les explications, doit-on faire confiance en la Bible pour obtenir une réponse satisfaisante sur la mort? Pensez-vous que la Bible, c'est un livre qui est assez qualifié pour nous dire ce qui va arriver? Parce que si on regarde comme fou, là, s'il y a bien une place qui nous parle qu'une résurrection, c'est dans la Bible. Si on parle qu'un paradis, c'est dans la Bible. Si on parle qu'un ciel, qu'un enfer, qu'un lac de feu, qu'un jugement, que tout ça, c'est écrit dans la Bible. Puis si on regarde aussi du fait que Jésus il est ressuscité, puis il est venu reparler à ses disciples, puis il a goûté la mort, puis il était là visiblement, les deux pieds là, pour parler à ses disciples, pour leur dire ce qu'il y a après. Je pense que Jésus, il sait de quoi est-ce qu'il parle. Jésus, en fin de compte, c'était le plus qualifié pour nous parler de ce qu'il y aura après. Parce que, car il vient lui-même du ciel. Il doit savoir ce qu'il dit. Hein? Y a-tu, combien est-ce qu'il y en a de personnes sur toutes les ce qui existe sur la terre, des religions, des révélations qu'il peut y avoir, combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont affirmé qu'ils viennent de Dieu, puis qu'il est venu en forme humaine, descendu du ciel, sorti du Père, il y a juste Jésus. Puis ça nous le dit dans Jean 16, 28, Jésus dit, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. » Jésus n'avait pas oublié d'où ce qu'il venait. Il savait parfaitement qu'il venait du Père. Il était conscient dans sa vie terrestre. Moi, je peux pas dire où ce que j'étais avant d'être créé, avant de venir au monde. Hein? Avez-vous des souvenirs de ce que vous étiez avant? Personne n'a des souvenirs. Il essaye de trouver qu'on aura peut-être un souvenir dans une réincarnation, mais vous allez voir par des versets de la Bible que tout cela, c'est faux. Il n'y a pas de réincarnation, ça n'existe pas. La Bible est claire, il réserve aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis il y a des versets qui le disent qu'il n'y en a pas. C'est une résurrection qui va avoir un jour. Mais pour le moment, s'il y en a un qui sait de ce qu'il parle, c'est Jésus. Il est sorti du Père, puis il dit, je suis venu dans le monde, puis là, il dit, je retourne au Père. Puis là, il sait ce qui se passe là, il l'a vu de ses yeux, il a parlé avec ses disciples, puis il leur a expliqué ce qu'il en était. Il leur a expliqué pendant qu'il était sur la terre, puis même par la suite, il donnait des révélations directes. Il apparaissait à Paul, puis il disait des choses, puis il a apparu aux apôtres, puis il lui donnait des révélations aussi par le Saint-Esprit. Puis la Bible nous dit, en plus, pour dire comment Jésus il sait de quoi ce qu'il parle, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. Parce que, on voit ça dans Colossiens 1,16. Ça nous dit, car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est le créateur de toutes choses. C'est sûr qu'il était avec son Père puis le Saint-Esprit, mais il était là. Puis Jésus, c'est lui qui a tout mis en place. Le séjour des morts, le lac de feu, les anges et tout cela. Puis il y a des buts pour chaque affaire, puis il sait de ce qu'il parle. Quand il est venu voir en forme humaine, il est venu voir ses créatures. Il est venu pour nous apporter la grâce d'être pardonné et la vérité qui est les vraies affaires qu'il y a après la mort. Est-ce que Jésus est digne de confiance?
Oui.
Surtout quand on sait que c'est impossible que Jésus mente. Parce que si Jésus a raconté une seule menterie, il péchait contre la loi, il devenait coupable lui et tout, puis il aurait eu besoin d'un sauveur. Tout ce qu'il nous a révélé pour apporter la vérité, c'est du 100% véridique, digne de confiance. On a le droit, puis même c'est plus que notre droit, c'est notre devoir de mettre notre foi dans ce qu'il a révélé, puis de s'attendre que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir tel qu'il l'a dit. Surtout quand il l'a annoncé, que le ciel et la terre vont disparaître, vont s'enfuir, vont être anéantis, mais mes paroles ne passeront point que tout ce que j'ai dit, dans ce que Dieu a dit, va arriver. Dans ce que Jésus a dit, ça va s'accomplir. C'est digne de confiance. Fait que si on part avec ça, on va sortir des versets dans les quelques prêches qu'on va avoir d'ensuite pour nous faire comprendre, nous élargir l'idée sur la mort, ce qui se passe après la mort, puis qu'est-ce qu'il y a là en place qu'on va voir de nos yeux. On va un jour être témoin personnellement, chacun de nous on va se retrouver là, puis on va le voir de nos yeux. En attendant, on croit, on marche par la foi, on croit en ce qu'il nous a dit. C'est ça qui est le but de Dieu. Dieu aurait pu apparaître à tout le monde là, individuellement, puis tout expliquer de A à Z lui-même. Il n'a pas choisi qu'on ça se passe comme ça. Il a choisi que de tout mettre par écrit, puis les écrits sont là, puis il veut qu'on marche par la foi, puis ça fait 2000 ans que c'est comme ça, puis on n'a pas le choix. Si on veut démontrer notre foi, on croit ce qui est là, puis on le prend comme étant du cash. C'est du véridique, puis on s'accroche à tout cela. Une autre parole du Seigneur aussi qu'il nous donne dans sa parole pour nous aider à adhérer à ce que Jésus a dit, ça nous dit que Jésus a quitté le ciel pour venir nous apporter les paroles de la vie éternelle. C'est cette phrase-là, quand les disciples l'ont prononcée, c'était comme, c'est la seule chose qu'on peut s'accrocher quand on s'accroche à Jésus. La plupart du monde s'est enfui, avait quitté Jésus, l'avait laissé tomber, puis les apôtres, ils étaient accrochés encore après Jésus, puis Jésus leur dit, puis vous autres, vous voulez pas vous en aller? Jésus leur a dit, voulez-vous pas vous en aller, vous aussi? » Pierre a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ça qui est notre espoir, notre espérance. À qui irions-nous? C'est Jésus qui parle de la vie éternelle. Puis on l'a en dedans de nous. Dieu nous a dit dans la parole, dans l'Ancien Testament, il a mis en nous l'idée ou la pensée de l'éternité. Puis où est-ce qu'on a une réponse? Qu'est-ce qui se passe après? Où je m'en vais après mes choix morts? Mais on a la réponse. C'est Jésus qui est venu pour nous apporter les paroles de la vie éternelle. Il remplit un questionnement. Il répond à un questionnement. Quand Jésus te dit, il va y avoir ça, il va se passer ça, puis j'annonce là, puis regardez ces choses-là, il dit, quand vous verrez les branches devenir tendres, vous savez que l'été est proche. Mais il y a un paquet d'affaires que Jésus a dit. Quand tu t'accroches à ces paroles, tu t'aperçois, plus que tu t'aperçois que c'est vrai, plus ça te donne la confiance. Il répond au plus gros point que je pense que moi-même j'avais, où est-ce que je m'en vais, mais que je sois mort. Puis Jésus l'a dit, il y a une vie éternelle. Puis il dit aussi comment y rentrer.
Amen.
Que dit la Bible sur la mort? On veut s'arrêter puis méditer des versets qui nous parlent de ça. La mort, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet qu'on veut même ignorer. On veut pas en parler. La plupart du monde n'en parle pas. Ils se font une petite idée pour se donner une petite réponse, là, une idée toute faite, là. Puis, je veux pas le savoir. J'ai déjà eu des débats avec... J'essayais d'évangéliser une personne, un chauffeur d'autobus, puis j'y expliquais les affaires, puis sais-tu qu'est-ce que Dieu a pour toi? Il dit, non, je veux pas le savoir. Il voulait pas le savoir. Pourquoi qu'il veut pas savoir? Parce que là, tu fais face à des paroles qui peuvent être obligées à changer de vie. Quand tu y crois un petit peu, là, tu sais qu'il y a quelque chose dans le fond, mais tu veux pas l'entendre, parce que ça te demanderait de changer. Ça te demanderait de peut-être ou ça te dirait peut-être de te remettre en question, puis de dire, hey, je suis pas correct. Puis le monde qui a une belle image d'eux-mêmes sont pas prêts à être dévoilés, puis de réaliser qu'ils sont pas dans le bon chemin, puis qu'ils seront obligés de changer de chemin. Puis les gens préfèrent les ténèbres parce que c'est réconfortant, puis tu peux rester comme que t'es, puis profiter encore de tout ce que t'as. Mais entendre des choses qui seraient vraies, ça pourra nous remettre en question, puis là, dire, wow, là, il y en a qui sont intéressés à entendre les choses de Dieu, puis il y en a d'autres que ça leur fait peur. Ils veulent pas l'entendre. La mort, c'est quelque chose d'épeurant. Puis tout ça, c'est l'ennemi sert de leur peur pour l'en rajouter pour qu'ils s'éloignent en courant plutôt que de vouloir la chercher. Mais il est important d'en parler. Il est important de parler de ce sujet-là parce que quand tu en parles, puis tu vas chercher réponse à la bonne place, ça va t'éclaircir les idées, puis ça va peut-être t'enlever des peurs. Quand la lumière s'allume, tu vois plus clair, hein? Mais quand tu comprends les vraies affaires, ça te donne d'être plus confiant dans ta vie, puis peut-être ça pourra enlever même des problèmes que les gens ont, des angoisses, des tourments face à la mort, puis les inquiétudes ça peut donner, puis les peurs, puis ça peut même rendre du monde malade quand ils pensent trop à ce qui se passe dans leur vie, puis qu'est-ce qu'ils font là, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils savent pas où ils s'en vont. Ça crée des angoisses, ça crée des tourments. Mais le fait d'en parler, ça peut libérer des gens, puis ça peut même donner de l'espoir quand tu sais qu'il y a un bon point dans cela, la mort. On a besoin de savoir que c'est un bon, qu'il y a des bonnes choses dans la mort. Il est important d'en parler. Nous devons tous y faire face et nous y préparer. Parce que veut pas, malheureusement, on va tous mourir. Quelques-uns ne le vivront pas à la fin quand Jésus va revenir. Mais d'ici à ce temps-là, ça arrive dans 100 ans, on ne sera plus là. Donc, on va avoir eu à faire face à la mort. Puis il faut savoir ce qu'il y en est. Puis regardons les passages de la Bible, ça va nous fortifier. Pour ceux qui sont sur le bon bord, parler de la mort c'est un gain. C'est un avantage, c'est des bénédictions, c'est pas, il n'y a pas de quoi d'épeurant. Lorsqu'on parle de la mort, la Bible parle que trois sens pour le mot de la mort. Trois sens qui sont dans la Bible, puis que c'est, on va y regarder ensemble, comme le premier sens, la mort, on parle de la mort physique. Quand une personne décède, quand une personne, elle arrête de vivre, elle tombe à terre, son corps est là. Puis ça, c'est expliqué dans la Bible, comme dans Genèse 3:19. Dieu avait dit à Adam et Ève, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est la mort physique, la mort du corps, le moment où ce que Dieu redemande ton âme, puis là, ton âme est redemandée, elle s'en va en haut, mais ton corps, il vit comme une séparation de ton être. Ton moi, ton je, c'est l'âme. Là-dedans, tu as tes sentiments, ta volonté, tes pensées, ton moi conscient, lui, il sort du corps. Puis tu vas aller rencontrer Dieu, tandis que ton corps tombe à terre. L'idée du mot mort, on voit aussi le sens que c'est l'idée d'être séparé. Le corps sans âme, il est mort. Quand ton âme sort de ton corps, t'es mort. C'est ça l'état d'être mort physiquement. Puis là, comme Dieu l'a décrété, il a décrété à Adam et Ève, puis ça s'est répandu sur l'ensemble de l'humanité. On est créé de poussière, on est formé de poussière, de molécules de la terre, puis on va retourner dans la poussière, dans la décomposition. Notre corps va se désagréger, il va être mangé par les vers. Ça dure un petit bout, mais on n'aura aucune conscience de ce qui va se passer à notre corps après notre mort parce qu'on n'est plus là. Notre moi conscient, il est parti avec Dieu ou dans un endroit qu'on va voir un peu plus tard dans l'étude. Mais le principe de mourir physiquement, c'est ton âme qui quitte ton corps peu importe pour la raison. Tu peux te faire passer, plutôt que c'est juste on est très fragile, notre corps est très fragile, un dysfonctionnement, le cœur décide de, pouf, tu tombes à terre, c'est fini. Ou tu te fais couper la tête par quelqu'un, peu importe la manière que tu vas mourir, la mort, ça revient au même. On est créé de poussière, puis on retourne dans la poussière. Dès l'Ancien Testament, l'enterrement du corps, c'est aussi mentionné comme une descente au séjour des morts. Dans leur vocabulaire, en français, le mot qu'il y a là, on va le voir plus en profondeur dans la suite de l'étude, mais en partant, comme qui est écrit dans Genèse 37-35, on voit un homme qui a perdu son fils. Puis là, il dit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Puis il pleurait son fils. Voyez-vous, l'idée d'aller dans le séjour des morts est là depuis le début de la création. Le séjour des morts, on va le voir plus en profondeur plus tard, mais ça s'appelait Sheol dans l'hébreu. C'est l'endroit où sont enterrés les morts. Ça représente le cimetière. Ça représente où ce que le trou, où ce que le corps est enterré. Mais on va le voir aussi que ça a un côté spirituel, qu'il y a un endroit où ce que l'âme, le moi conscient qui est sorti de son corps, il va après la mort. Ça s'appelle aussi le séjour des morts. Le séjour des morts, il est comme en deux idées dans l'Ancien Testament. Le trou où c'était enterré ou l'endroit où sont les âmes après qu'ils sont décédés. C'est un endroit qui s'appelle en français séjour des morts. C'est un séjour temporaire en attendant. Un séjour, c'est que de passage. On va le revoir un peu plus plus tard. Mais ça nous dit que lui venait de vivre, que son fils, il est décédé, il est rendu dans le séjour des morts. Il voulait peut-être dire le trou, ce qui est enterré. Puis un jour, je vais aller à la même place que lui, parce que c'est le destin de chaque être humain sur cette terre. La plus triste partie de l'histoire, c'est que la Bible dit que tous meurent en Adam. Dans 1 Corinthiens 15, 22, ça nous dit directement cela. Tous meurent en Adam. Puis Adam symbolise le premier être vivant formé de la poussière. Et nous, nous faisons partie d'un descendant d'Adam. Et tous meurent en Adam, fait que la même condamnation de mourir physiquement, dont Adam il a été obligé de subir lui tout, bien, ça va nous arriver à nous aussi. Tout le monde meurt en Adam, sauf quelques exceptions qu'on va parler un peu plus tard, qu'à la fin où ce que Jésus va revenir, il dit qu'il va enlever son Église. Puis il y en a quelques-uns qui ont la grâce de vivre dans cette période-là, vont être enlevés vivants sans connaître la mort. Ça, c'est une exception. En attendant, tous meurent en Adam, préparons-nous. On ne sait même pas si on va être là demain. Il n'y a pas gros d'amen. De toute façon, vous n'êtes pas obligés de dire amen. C'est pas quelque chose qu'on veut. On fait juste être conscient. Notre vie terrestre, la vie nous est prêtée chaque jour où ce qu'on vit, mais on rend grâce à Dieu et on dit merci Seigneur de cette journée de plus que tu m'as prêtée. Puis le jour où ce que Dieu va le décider, il nous emporte, c'est fini pour nous, mais la terre n'arrêtera pas de tourner parce que je serai plus là. Il va en avoir d'autres. Vous êtes déjà là, si je pars, vous allez être encore là. Vous allez être obligé de vous trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir me remplacer. Mais là, sûrement le Seigneur l'a déjà prévu. Puis, on n'est pas le nombril du monde. La terre, elle va continuer à tourner même si on n'est plus là. Des fois, regardez les cimetières, c'est rempli de monde irremplaçable. qui se pensait irremplaçable. Ils sont tous rendus là, puis la terre continue à tourner. Voyez-vous, tout le monde doit quand même avoir une juste pensée de leur importance dans cette vie. On n'est pas si important que ça. Dieu nous a permis d'être là, puis il nous utilise, merci Seigneur, mais si on ne serait pas là, il n'y en aurait un autre. Fait qu'il faut pas que ça nous montre trop dans la tête les talents ou les dons qu'on a présentement. Il faut rendre gloire à Dieu, puis remercier le Seigneur à chaque journée de plus qu'il nous donne. C'est une grâce de pouvoir continuer à le glorifier puis le servir. Merci Seigneur. Ça, c'était le premier point du mot mort. Comme j'ai dit, il y a trois sens que le mot mort est employé dans la Bible. On va voir le deuxième sens, la mort spirituelle. Parce que on parle de la mort physique, tout le monde va le vivre, là on va voir le sens spirituel, la mort spirituelle, dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1. Dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1, ça dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Mais là, il parle à des vivants, des gens qui sont encore vivants, qui sont encore en train de l'écouter. Il dit, vous étiez morts. Mais là, on parle pas de la mort physique. Il y a d'autres, tu peux être mort puis être vivant. C'est ça qui est l'idée qu'il faut comprendre. Tu peux être, aux yeux de Dieu, appelé à être un mort, puis être encore vivant, puis jaser avec tout le monde. Là, on parle d'une mort qui est pas la mort physique, on parle de la mort spirituellement parlant. Aux yeux de Dieu. Ton âme, es-tu vivante ou c'est morte? Tu peux avoir un âme qui rit, qui chante, qui compte des jokes, qui fait rire le monde. Ton âme, tu peux être une personne qui s'exprime, puis qui déborde de joie, puis qui fait toutes sortes de belles affaires pour faire rire tout le monde. Puis Dieu t'appelle que tu es mort. Tu es un mort, spirituellement parlant. Qu'est-ce que la Bible veut dire par le fait d'être mort spirituellement parlant? On parle d'un état, parce qu'on a dit que le corps sans âme, il est mort. Quand tu as une séparation dans ce qui nous forme, nous, on est formés corps, âme et esprit. Quand l'âme et l'esprit sortent du corps parce qu'ils sont redemandés par Dieu, ton corps, il est sans ton âme, il est appelé mort, il est séparé. Mais spirituellement, un âme vivante, un homme vivant, quelqu'un qui vit sur la terre, mais qui n'est pas connecté avec Dieu. Il est séparé de Dieu. Il est appelé un mort, spirituellement parlant. Tu es déconnecté. Tu n'es pas en communion. Tu ne marches pas en lui, puis lui n'est pas en toi. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, ou s'il l'a reçu, il a vécu tellement tout croche que là, l'Esprit a décidé de s'en aller. Tu peux être, puis ça, on va le voir plus tard, il y a des versets qui mentionnent cela. Puis ceux qui veulent le savoir tout de suite, allez voir dans l'Apocalypse, au chapitre 2, quand Dieu parle au pasteur de cette église-là, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Puis il dit, affermis le reste qui est prêt de mourir, car j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça veut dire, tu peux être, même avoir été ressuscité, parce que quand tu viens à Jésus, tu étais un mort, tu viens à Jésus, tu es ressuscité, tu retrouves le contact, puis tu peux te retrouver au bout d'un certain temps, encore déclaré mort devant Dieu, parce que Dieu était plus capable de la vie que tu faisais dans le péché, puis il s'est retiré. Puis qu'il y en a d'autres dans l'Église peuvent être en train d'en souffrir aussi, puis ils vivent là, parce que leur vie spirituelle est complètement dans le champ, plus conforme à ce que Dieu dit. Puis ça, c'est pas, je veux pas aller jusque là, mais je veux revenir sur l'idée de la mort spirituelle pour quelqu'un qui connaît pas comment faire pour retrouver cette communion-là avec Dieu. Mais il est appelé un mort. Puis la Bible, elle nous dit que tout le monde sur la planète est mort. Spirituellement parlant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14. Je ne parle pas de ceux qui ont réobtenu d'être ressuscités, mais dans l'ensemble, Paul est en train de dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Il appelait les membres de cette église-là des vivants aujourd'hui, puis il dit, avant, vous étiez des morts. Mais malheureusement, c'est que l'ensemble de la planète devant Dieu est mort présentement. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, en parlant de Jésus, qui est mort pour tous, tous donc sont morts. » Là, ça veut dire, Jésus il est mort pour tout le monde. Mais ça inclut l'idée que tout le monde est mort spirituellement, puis il avait besoin de Jésus pour ressusciter. Il n'y a pas d'exception. Puis ça, on va le voir un peu plus loin, comment que ça a rentré dans le monde, le fait qu'on soit mort spirituellement parlant. Tous, donc, sont morts. Fait qu'il n'y a pas de personne ici que vous allez rencontrer sur cette planète qui ne connaissent pas Jésus. Il n'y a pas de personne qui ne connaît pas Jésus qui sont réellement vivants devant Dieu. Ils peuvent se penser vivants par leur religion, mais devant Dieu, ils sont tous morts. Parce qu'on va le voir un peu plus loin, le seul moyen pour pouvoir être ressuscité de notre mort spirituelle, c'est grâce à Jésus. Fait que c'est en Jésus qu'on peut être ressuscité. Mais devant Dieu, nous étions tous, nous aussi, du nombre appelé les morts, spirituellement parlant. Même si on est vivant, les deux pieds là, puis on dit, hey, je suis là. T'es là, mais t'es un mort. Pourquoi que t'es mort? Parce que t'es déconnecté d'avec Dieu. Tu le sais pas, mais là, je te l'apprends, puis c'est important de le savoir. Oui. La conséquence directe de cette mort spirituelle, ça a pour conséquence une privation de la gloire de Dieu dans notre vie terrestre. Parce que le fait qu'une personne est déconnectée d'avec Dieu, ça a une conséquence. Elle est appelée mort, mais il y a quelque chose de plus que ça fait. C'est que tu es privé de la gloire de Dieu. C'est ça que ça nous dit dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu voudra manifester sa gloire dans leur vie. Tu connais pas le Seigneur, tu marches dans tes péchés, Tu es privé de la bénédiction que Dieu voudrait te donner, sa paix, sa joie, son amour, d'avoir de la tempérance, de la patience, tout ce qui fait partie du fruit de l'Esprit, que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée, que tu sois pardonné de tes péchés. Toutes les bénédictions qui viennent de la gloire de Dieu, tu les as pas quand tu es mort spirituellement. Tu es privé de sa gloire. Tu es privé de tout ce qu'un chrétien a en Jésus. Quand tu es né de nouveau, tous les nouveaux statuts, c'est la gloire de Dieu. On en a vu 40, puis il y en a encore des idées qu'on aurait pu éplucher. Des bénédictions de la gloire de Dieu, de ce que nous sommes dans notre nouvelle position en Jésus. Mais quelqu'un qui est séparé de Dieu, lui, il est privé de tout ce que Dieu aurait pu faire dans sa vie. Puis tant qu'il reste dans cet état-là, c'est grave, parce que il y a un grand enjeu qu'on va voir un peu plus loin. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, mais ma grand-mère était assez fine. C'est une sainte, c'est une bonne personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas une personne sur la terre, à part Jésus, qui a pu vivre une vie pour être dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Il n'y a que Jésus seul. Une autre troisième façon que la Bible se sert du mot mort, là on a vu la mort physique, on a vu la mort spirituelle, il y a encore un autre état que la Bible parle de mort, qui sert du mot mort, c'est la mort éternelle, appelée aussi la seconde mort. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14, ça nous parle de ce mot mort-là, la seconde mort, comme étant un lieu où ce que les gens morts dans leur péché vont se retrouver pour l'éternité. Dans Apocalypse 20:14, ça nous dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. On parle d'un endroit qui est appelé seconde mort. Puis ça nous dit carrément, c'est l'étang de feu. La Bible, elle nous parle d'un étang de feu, d'un lac de feu. On va le voir plus en profondeur, un peu plus loin dans l'étude. C'est un endroit préparé pour le diable et pour ses démons. Préparé pour le jugement du diable et ses démons. C'est pas un endroit où ce que le diable va régner. C'est un endroit pour le punir où ce qui va être éternellement dans des tourments puis dans des souffrances, rejeté loin de Dieu, puis il pourra plus jamais sortir de là, ni le diable, ni ses démons. C'était créé dans le but d'être comme une prison éternelle, un lieu de ténèbres, puis c'est décrit comme étant un lac de feu, puis ça a été appelé des fois la Géhenne, la vallée de Géhimon, qui était représentée comme le dépotoir de Jérusalem. Jérusalem avait un dépotoir où ce qui allait jeter le vidange, puis faire brûler le vidange, puis comme qu'il disait dans les sacrifices de l'Ancien Testament, il allait faire brûler les restes de l'offrande qui était offerte à Dieu. Il allait faire brûler ça hors du camp. C'est qu'il sortait de la ville, puis il allait faire brûler ça dehors, dans un endroit qui était dans une vallée, dans un spot où ce que c'était comme le dépotoir de la ville, puis le feu brûlait pour brûler les vidanges sans arrêt. Puis la Bible, elle nous parle que c'est un étang, c'est dans les images que ça nous est donné pour ce lieu-là, un lac de feu. C'est comme un étang ardent de feu et de soufre. Un lieu de tourment éternel dans les ténèbres du dehors, où ce qui ne voit plus la vie, etc. On va voir des versets avec pour cela plus tard. Mais on est en train d'étudier l'idée du mot mort qui est utilisé pour la troisième fois, la mort physique, la mort spirituelle et la seconde mort. C'est un endroit où ce que des gens vont être jetés là, au même endroit où ce que le diable lui-même va être jeté pour comme jugement éternel, comme conséquence d'avoir rejeté Jésus puis d'être mort dans leur péché. Le fait d'être dans leur péché les empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Ils peuvent pas rentrer, leur péché empêche. Puis la Bible parle que c'est un châtiment éternel. Cette mort éternelle, c'est un état permanent, un châtiment sans fin, une séparation du Seigneur et de sa puissance pour l'éternité. Dans 2 Thessaloniciens 1:9, quand Jésus, ça nous parle dans le contexte du retour de Jésus, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec ses anges puissants au milieu d'une flamme de feu. Il vient là pour un but, là, quand Jésus va revenir. Il vient pas pour un party. Il vient pour amasser son Église puis donner du repos à son Église. Mais il vient pour un jugement à donner sur les nations. Puis le jugement est donné à son retour. Lorsqu'il paraîtra, il vient pour punir ceux qui connaissent pas Dieu puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis, excusez. Ils auront pour châtiment. C'est ça le point. Quand Jésus revient, pour punir ceux qui ne le connaissent pas, qui ne suivent pas l'Évangile, puis ils vont avoir pour châtiment, c'est ça le verset qu'on va lire au verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Quand Jésus va revenir, il vient pour le châtiment, donner le châtiment à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Il va avoir pour châtiment une punition, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Être, comme je vous disais, que la mort spirituelle, c'était d'être séparé d'avec Dieu, mais il va avoir la seconde mort qui est une séparation d'avec Dieu, mais pour l'éternité, c'est une ruine éternelle d'être séparé d'avec Dieu, puis ils ne verront pas Dieu, ils ne verront plus Dieu, puis ils vont être jetés loin de la face de Dieu. Ça, il y a d'autres versets qui en parlent aussi. Hein? Ça, c'est Hadès, c'est le mot séjour des morts dans le Nouveau Testament. Parce que tout à l'heure, j'ai dit séjour des morts, j'ai dit c'était le Sheol, ou le trou, ou le lieu d'attente pour les morts. C'est dans l'Ancien Testament, c'était le mot Sheol. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot Hadès en grec. Oui, c'est le lieu où ce que vont les morts après leur mort, mais c'est le lieu temporaire. Après la mort. Puis ça, on va l'expliquer un peu plus en profondeur dans la suite. Mais les trois sens du mot mort sont là, puis c'est vraiment, quand tu penses à ça, là, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de le savoir. On veut être informé. Qu'est-ce qui va se passer après? On a besoin de comprendre qu'il y a juste Jésus qui peut régler notre problème, de pas se ramasser dans ce lieu-là. Après notre mort. Pourquoi subissons-nous la mort physique et la mort spirituelle? Pourquoi ça nous arrive? J'ai-tu demandé de venir au monde, moi? J'ai-tu demandé d'être là? Puis je me retrouve dans cette position-là. Je vais mourir physiquement, puis je suis mort spirituellement. L'ensemble de l'humanité peut se dire cela. Comment ça se fait qu'on se retrouve pogné avec ce problème-là, que je vais mourir physiquement puis que je suis mort spirituellement parce que je suis né au monde? Mais la mort physique et spirituelle sont entrées dans le monde par Adam et Ève. Elles sont des conséquences directes de leur péché. Leur désobéissance a amené la race humaine entière à être privée du seul moyen de vivre éternellement. C'est à quoi le moyen de vivre éternellement qu'il y avait originalement? L'arbre de la vie. Il y avait un arbre de la vie dans le jardin d'Éden. C'était pas un paradis. Il y en a qui appellent ça le paradis terrestre, mais ça existe pas ce mois-là. Ça, c'est l'idée catholique qui nous a amené ça dans la tête. C'était le jardin d'Éden. En Éden, il y avait un jardin qui veut dire un enclos, un endroit où ce que Dieu mettait ses premiers humains, les premiers prototypes, Adam et Ève. Il a fait Adam, après ça, il a fait Ève. comme qu'il s'est perfectionné, il a créé Ève en deuxième. Elle est bonne pour les femmes, celle-là. Mais ils ont été mis dans l'enclos de Dieu, puis dans cet enclos-là, qui était son jardin merveilleux, où tous les arbres fruitiers poussaient, mais il y avait un arbre qui lui procurait de vivre éternellement, l'arbre de vie. Mais le fait de désobéir à Dieu, ils ont obéi au diable, ils ont inconsciemment, parce qu'ils ne savaient pas vraiment, même s'ils savaient parce que Dieu leur avait dit, ils ne pouvaient pas s'imaginer jusqu'à où que ça serait la gravité de leur problème en désobéissant. Mais ils l'ont fait, puis ils l'ont vu. C'est qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Puis là, ils ont été privés de l'arbre qui lui pouvait leur donner de vivre éternellement. Puis ça, on voit ça dans Genèse 3, 22, 24. On va vous le lire rapidement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est après qu'il ait désobéi en prenant du fruit défendu. Puis il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main puis de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Puis là, l'Éternel les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Puis c'est ainsi qu'il chassa Adam puis qu'il mit en l'Orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voyez-vous, la conséquence est directe. Le fait qu'il ait désobéi, ça leur a entraîné plusieurs conséquences, mais une entre autres, c'est ils ont été jetés dehors du jardin, puis il a même mis des chérubins, Dieu a mis des chérubins pour empêcher Adam et Ève d'essayer de retrouver le chemin. Parce que c'est sûr que ça lui est venu dans la tête. On y retourne, puis on va en manger. Dieu il a veillé à ce que le chemin soit gardé, puis qu'il n'y ait pas une possibilité de le retrouver, puis ça ne donne à rien d'essayer de le retrouver aujourd'hui, on ne le trouvera pas. Dieu, il a mis un terme à l'idée de vivre éternellement, puis ceux qui veulent en savoir plus sur cette idée-là, j'ai prêché dernièrement sur justement quand Jésus, on a accès à manger de l'arbre de vie, puis allez lire que c'est Jésus qui est le pain de la vie. Allez écouter cette prêche-là, ça vaut la peine, elle est bonne. Moi, je l'ai réécoutée, puis je la trouve super.
Il y avait deux arbres.
Il y avait des arbres, puis il y avait l'arbre de vie, puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis celui-là, il n'a pas le droit d'en manger. Mais l'arbre de vie, il pouvait en manger, puis vivre éternellement. C'était open. Tandis que l'autre, c'était touche pas à ça. Non, pas touche pas à ça. Mange-en pas. Parce que Dieu leur a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pourtant, il est encore vivant la journée qu'il en a mangé. Il ne parlait pas de la mort physique, Dieu. Il parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle, le deuxième sens du mot mort, comme je vous ai expliqué, c'est d'être déconnecté d'avec Dieu. Ça vient du moment où ils ont désobéi, ils sont morts cette journée-là. Ils ont été séparés d'avec Dieu. Ils n'étaient plus innocents, c'était rendu des coupables. Puis c'est ça le fait, c'est qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Dieu s'en venait dans le jardin, ils l'ont entendu, ils se sont sauvés. Là, ils se cachaient de Dieu. Après ça, il avait peur. On sait que tu t'en venais, il avait peur, la peur, tout ce qui est négatif a commencé à arriver dans leur vie suite à leur état de pécheur. Il était séparé de Dieu, il était mort spirituellement, déconnecté d'avec Dieu. La journée même qu'ils en ont mangé, ils ont vécu l'effet d'être séparés, avoir peur de Dieu, fuir Dieu, se sentir honteux, puis de se sentir pécheur, puis etc., puis être conscient du bien et du mal. Tout ça s'est enchaîné, puis c'est comme ça s'est transmis à l'ensemble de l'humanité. Puis là, d'où ce que ça vient que nous sommes morts spirituellement et morts, qu'on doit mourir physiquement, ça vient de nos ancêtres directement. On n'est pas responsable de cela, mais on n'aurait pas fait mieux qu'eux. Si on arrêtait à leur place, on aurait fait la même chose. Ça donne rien de les blâmer puis de les blâmer sur notre état. Regardons plutôt c'est quoi la solution que Dieu a mis pour réparer cet état-là. L'apôtre Paul explique que l'humanité entière a aussi subi les effets du péché d'Adam et Ève. Dans Romains 5, 12, ça nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Voyez-vous, l'ensemble de l'humanité sont morts devant Dieu, puis ils sont appelés à mourir physiquement en plus à cause du péché d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, puis là le péché est entré dans le monde, puis la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tout le monde est dans un état de mort spirituellement et condamné à mourir physiquement. On attend juste notre heure de partir. C'est normal de s'attendre à mourir physiquement parce qu'on n'a pas accès à l'arbre de vie. Paul y ajoute que la mort physique et spirituelle sont reçues par nature. Les êtres humains étant tous des fils de cette rébellion initiale. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Il n'y a pas deux races d'humains sur la terre. On ne descend pas de deux souches. On descend tous d'Adam et Ève. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a une deuxième souche. Que Ève a raccouché avec Satan, ça aurait fait une descendance d'une autre race, comme les fils du diable, appelés les fils du diable, puis que là, il y aura une lignée des fils de Dieu, puis une lignée des fils du diable. Mais ça, c'est une fausse doctrine. C'est absolument archi-faux. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Puis, ils tordent des sens, parce que les anges, ils n'ont pas la capacité de créer la vie, et ils n'ont pas de spermatozoïdes pour créer des enfants. Ça n'existe pas. C'est une fausse interprétation de ce qui aurait pu se passer. Ça, on pourra en parler, mais c'est pas le but de notre étude aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul y ajoute que la mort physique et spirituelle sont reçues par nature. Les êtres humains étant tous des fils d'Adam et Ève, bien qu'une lignée, on est tous issus d'un seul sang, que ça nous dit dans le Nouveau Testament. C'est le sang d'Adam et Ève qui coule dans nos veines, il n'y a pas d'autre lignée. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset de 1 à 3, ça nous dit, dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, mais j'ai lu un petit bout, ça dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Verset 3, « Nous tous aussi, nous tous, c'est ça qu'on n'a pas de mérite, nous tous aussi nous étions de leur nombre. » De leur nombre, des morts spirituelles sur la terre. On vient tous d'Adam et Ève, on était tous de leur nombre, étant des morts spirituellement, puis condamnés à mourir physiquement. On était de leur nombre, puis on vivait autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Nous étions par nature, c'était naturel, tu viens au monde, puis tu es un enfant de colère. Tu n'as pas le choix, puis on se demande pourquoi que ça m'arrive. C'est naturel, tu es un descendant d'Adam et Ève, tu as hérité, veux pas, tu as hérité de ce qui vient d'eux, d'être mort spirituellement, puis d'être séparé d'avec Dieu, et de appeler à mourir physiquement. On était tous, c'est naturel, des enfants de colère comme les autres. C'est pour ça que aujourd'hui, tout le monde vit en fonction qu'on le sait qu'un jour, on va quitter ce monde. Puis là, il y en a, quand ils font face à cette idée-là, ils se préparent à mourir physiquement. Comment est-ce qu'ils font pour se préparer pour mourir physiquement? Bien, ils vont aller voir le notaire, puis ils vont se faire un certificat d'inaptitude, puis ils vont se faire un testament, puis ils peuvent même faire payer déjà d'avance pour leurs arrangements funéraires, pour laisser moins de troubles à leurs enfants. Ils savent, tout le monde le sait, on est tous appelés à mourir physiquement, puis tu peux préparer ta mort d'avance. On va mourir, puis il faut préparer ce temps-là, parce que si tu le prépares pas, ça va faire plus de troubles à ta descendance. Mais, malheureusement, Il faut aussi se préparer à régler le problème de notre état spirituel. Oui, c'est beau de se préparer qu'on va mourir physiquement, puis d'aller voir le notaire, puis d'aller voir les arrangements funéraires. C'est beau. Mais il faut aussi se préparer à régler le problème de notre mort spirituelle avant de mourir. Si je prends le temps de sortir de l'argent, puis je suis pas gêné, on n'est pas gêné d'aller payer une tombe, d'aller payer un endroit de pouvoir se faire enterrer. Là, tu vas payer des places dans le cimetière, tu vas payer même ta pierre tombale, tu vas payer le salon funéraire, ça va être toute une fortune, louer un cercueil ou te faire incinérer. Puis là, les fleurs, puis tout l'arrangement, puis si tu fais venir un pasteur, ça, des fois, ça coûte des frais. Je dis pas que tous les pasteurs chargent, mais il y en a qui chargent pour venir faire un genre de service pour le... Tout ça, ça se prépare. Mais c'est beau de préparer tout cela, mais il faut aussi se préparer avant de mourir, de régler notre problème de notre mort spirituelle. Il y a des gens qui mettent plus l'emphase à se préparer pour leur mort physique qu'ils mettraient d'emphase pour préparer leurs états spirituels. C'est qu'ils ne veulent pas y penser qu'il y aura peut-être un problème dans ma vie face à Dieu. Que vu que je suis mort spirituellement, ça a peut-être une conséquence après ma mort. Puis il faut que je règle ça avant de mourir. C'est important que ça soit réglé, ce problème-là. Parce que si on meurt spirituellement, si on est mort spirituellement, puis on meurt physiquement, ce qui nous attend, c'est de tomber dans la seconde mort, qui est l'étang de feu. Puis on va le voir dans d'autres versets. Mais il y a une bonne nouvelle, ça c'est le dernier verset que je veux vous amener. Il y a une bonne nouvelle, ça c'est l'Évangile. Le mot bonne nouvelle, c'est Évangile veut dire bonne nouvelle. Quand on prêche l'Évangile, on prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? C'est qu'on peut être pardonné de nos péchés, puis on peut ressusciter direct ici dans notre vie terrestre. On n'est pas obligé d'attendre après pour voir ce qu'il va y avoir, puis de prendre la chance d'arriver l'autre bord, puis de dire, « Oh, ben, je pensais pas que ça aurait été si pire que ça, mais il est trop tard, t'es rendu l'autre bord. » Si Jésus, qui est digne de confiance, il est venu prendre le temps de quitter son ciel, venir sur la terre, nous l'expliquer, qu'il y a de quoi après, puis il faut que tu te prépares, puis moi, je vais mourir sur la croix pour que vous soyez pardonnés, pour régler votre problème, justement, de votre mort spirituelle. Il faut régler ça, il faut que tu sois pardonné, il faut que tu ressuscites. Il ne faut pas que tu restes mort spirituellement. Il faut que tu ressuscites ici, dans cette vie, que tu retrouves le contact avec Dieu dans ta vie, puis que tu sois une âme vivante et non pas une âme morte, les deux pieds sur la terre. Il faut que tu règles ce problème-là avant de mourir, puis c'est ce que Jésus est venu faire. Il y a un moyen pour régler le problème de la mort spirituelle, puis de la mort éternelle, la seconde mort. Il y a un moyen pour régler ce problème-là, puis c'est Jésus. C'est le seul moyen, c'est Jésus. Dans 2 Timothée 1, 10, ça a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort, puis a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Voyez-vous, Jésus est venu pour manifester, montrer publiquement, pour que tout le monde soit au courant. C'est pas quelque chose de fait à cachette. Tout le monde l'a su dans cette époque-là. Puis 2000 ans plus tard, on le sait aussi, on l'a encore, le livre qui en parle. Jésus, il a détruit la mort. Puis il a mis en évidence la vie. Il y a de quoi... Il nous a prouvé qu'il y avait une vie après la mort. Comment? En ressuscitant, puis en se montrant à ses disciples, puis il dit, viens Thomas, mets ton doigt dans le trou. Il a montré son trou. Mets ton doigt dans le trou. Ne sois pas incrédule, mais crois. Puis il a mangé devant eux autres. Puis il a apparu pendant 40 jours. Puis on va le voir dans un verset plus tard. Il a apparu à plein de monde après. Pour montrer, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'immortalité, c'est ça, d'être toujours vivant au siècle des siècles. 2000 ans plus tard, Jésus est encore vivant, il est encore là, puis il nous prouve encore qu'il est là, puis il change des vies encore 2000 ans plus tard. Il ressuscite des vies encore 2000 ans plus tard. Il y a des gens qui sont pardonnés de leurs péchés, puis qui obtiennent le cadeau gratuit de la vie éternelle donnée par Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ça l'espérance des chrétiens. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous révèle les pensées sur la mort puis tout ce que tu nous expliques dans ta parole. On veut connaître les choses que tu nous as données, Seigneur. On veut que tu te révèles à chacun de nous puis qu'on puisse en être pleinement conscient au point d'être capable de les transmettre aux autres. Puis qu'avertir les gens de nos familles, de nos amis, nos voisins, qu'ils ont besoin de se préparer à rencontrer Dieu, puis à donner leur vie au Seigneur pour être pardonnés de leurs péchés, puis recevoir le cadeau de la vie éternelle qui va leur permettre d'être ressuscités présentement. Je te demande, Seigneur, de nous utiliser, de nous guider dans toute la distribution de l'Évangile autour. Puis merci de cette espérance que tu nous donnes qu'un jour on va se retrouver avec toi pour vivre pour l'éternité. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour tous les siècles. Amen.